À suivre à la seconde partie de la conférence enregistrée le jeudi 7 mars 2019 à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Son thème, Louise Michel, une femme d'exception, par Edith Lombardi de l'association Solidarité Femmes.
Prends pas le fil comme ça facilement après ce chant. Hein. Les communards ont beaucoup écrit, des poèmes, des chants, des mémoires. C'était une période courte, mais d'une telle intensité sur le plan humain, elle a produit énormément, énormément de pensées, de mémoires. Et Louise Michel fait partie de ceux, de celles qui ont fait ce travail, ce grand travail de mémoire qui nous est tellement précieux. La Commune, les Versaillais n'ont pas voulu négocier, ils ont massacré. Il faut vraiment qu'on s'en souvienne. 30 000 communards ont été massacrés en une semaine. 30 000. C'était, dit un poème, « On tira sur toi comme on tire sur les moineaux dans le blé mûr. » On détruit. Une insurrection populaire qui a tenté de s'organiser, qui a réfléchi sa vie, détruite. Pas la mémoire, la mémoire n'est pas détruite. Et alors, après, il y a eu des emprisonnements, beaucoup d'emprisonnements, des condamnations à mort, là, avec des procès, puis des condamnations à la déportation. Vous savez que Courbet a fait partie de ceux qui ont été emprisonnés, condamnés à une très lourde très lourde amende et puis qu'il a dû s'exiler. Mais je vais vous dire quelques-uns de nos auteurs favoris qui ont parlé de la Commune. Alphonse Daudet, sauvé, sauvé. Paris était au pouvoir des nègres. C'est Alphonse Daudet après la Commune. Alphonse Daudet, vous vous souvenez de la petite chef de M. Seguin, bien sûr. On a tous appris ça à l'école primaire. Une petite chèvre attachée à son piquet rêve de liberté. Elle va sur la montagne qui est si belle, si odorante. Hé, hey, petite chèvre, tu veux être libre? Tu le paieras de ta vie, le loup qui est puissant te dévorera. Et Alphonse Daudet a écrit ce conte, cette histoire, c'est pas un conte, c'est une histoire à sa façon, a écrit cette histoire avant la Commune. Il l'a envoyé à un de ses amis qui se sentait proche des révoltés et il leur a dit « Regarde mon ami, ce qui t'arrivera, mets-toi du côté des puissants, sinon tu seras détruit par le loup qui est bien plus fort que toi. Mets-toi du côté des plus forts. » C'est Alphonse Daudet. Flaubert. Flaubert, dans une lettre à son ami Georges Sand, « Le peuple est un éternel mineur. Je hais la démocratie. Le premier remède serait d'en finir avec le suffrage universel. La honte de l'esprit humain. » Alors, le suffrage universel, c'était bien sûr un suffrage pas pour les femmes. Et puis, il fallait quand même avoir un domicile, avoir un certain revenu pour être autorisé à voter. Hein. L'instruction, il continue, l'instruction obligatoire et gratuite n'y fera rien qu'augmenter le nombre des imbéciles. Le plus pressé est d'instruire les riches qui, en somme, sont les plus forts. Et parlant des communards, au moment du massacre, il dit « Il faut écraser cette vermine ». Maxime Ducamp s'en prend particulièrement aux femmes. Il dit « Si elles se rebellent, c'est que l'orgie n'est pas loin et qu'elles sont possédées ou malades. Presque toutes les malheureuses qui combattirent pour la Commune étaient ce que l'aliénisme appelle des malades ». Renan, lui, dit « Il faut que le peuple souffre nombreux afin que puisse s'établir la richesse et donc la culture pour un petit nombre. C'est la loi de la vie. C'est un honneur pour l'ouvrier que de souffrir en permettant que s'édifient ces sortes de grandes pyramides. » Goncourt. Un des frères Goncourt est mort, mais il en reste un qui parle. Et Goncourt, en parlant du massacre, dit « C'est une saignée utile. Ils mettront 20 ans à refaire leur force. » Victor Hugo vient de revenir d'exil. Son fils Charles, qui habitait à Bruxelles, vient de mourir. Victor Hugo est à Bruxelles, il s'occupe des affaires de son fils. Il aurait pu revenir à Paris, mais il reste un peu à l'écart. Il reste à l'écart et il dit « Le vent qui souffle a presque éteint cette veilleuse, la conscience. » Parlant de la Commune, il dira « Ce fut une bonne chose mal faite. » Victor Hugo, tout au long de sa vie, va lutter pour obtenir des grâces et pour obtenir l'amnistie des déportés. Et il accueillera d'innombrables proscrits chez lui, les protégeant, leur trouvant du travail, les nourrissant, les abritant. Toute sa vie, jusqu'à sa mort, Victor Hugo, qui va devenir un personnage important de la Troisième République, mais Victor Hugo restera solidaire de tous ceux, en particulier que Louise Michel lui adressera. Et puis, une figure à retenir. Le père de Pierre Curie. Pierre Curie, qui sera le mari de celle qu'on connaît sous le nom de Marie Curie. Pierre Curie a 12 ans à l'époque. Il a un frère un peu plus âgé que lui, Leur père est médecin. Et ce médecin, avec ses deux gamins, va créer un hôpital pour les communards. Et inlassablement, ces deux garçons, ces gamins avec leur père et des amis, vont aller chercher les communards blessés sous les barricades, les emmener à leur hôpital et les soigner. C'est le jeune Pierre Curie. Il était là. Et il y en a eu beaucoup d'autres, d'un héroïsme discret dont on ne parle pas. Louise Michel, les soldats ne l'ont pas trouvé. Mais ils ont trouvé sa mère. Alors ils ont emprisonné sa mère et ils vont la condamner à mort. Alors elle va vers les juges, elle leur dit « Lâchez ma mère, c'est moi que vous voulez, me voilà. » Il y a son procès. Elle affronte ses juges face à face. Oh, eux, ils ont beaucoup de mal à la regarder. Ils sont hésitants, ils ont le nez sur leur papier, ils regardent de côté. Ils ne savent pas comment faire. Et elle est là, face à eux, et elle leur dit « Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai porté des armes. Oui, je me suis habillée en homme. Oui, j'ai combattu aux côtés des communards. Oui, j'étais en première ligne. Oui, je leur ai dit qu'ils avaient raison. Oui, j'ai fait partie du groupement de femmes. Oui, j'ai créé des ambulances et j'ai soigné. Et j'aurais voulu faire plus. Eh bien, condamnez-moi à mort. » Vous avez tué tous mes amis, vous avez massacré, vous n'avez pas voulu négocier, vous êtes des massacreurs, eh bien continuez, massacrez-moi. Et ils sont gênés, ils sont gênés, ils ne savent pas. Elle est, d'une certaine façon, elle est trop dérangeante pour qu'on puisse la tuer si facilement. Peut-être que sa mort serait plus dérangeante que sa vie, on ne peut pas dire. Mais c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui est publié dans les journaux, c'est quelqu'un que Clémenceau, qui n'a pas été un communard, mais qui n'a pas été un Versaillais. Que Clémenceau, pour qui Clémenceau a beaucoup d'estime. Alors, elle fait de la prison. Elle fera beaucoup de prison tout au long de sa vie. Elle fait de la prison et finalement, elle est condamnée avec d'autres à la déportation à vie en Nouvelle-Calédonie. Elle n'a pas son billet pour Cayenne. Elle a son billet pour la Nouvelle-Calédonie. Seulement, c'est plus la jeune effrontée là qui a son billet. Là, c'est une femme qui est en deuil. C'est une dame, c'est une femme qui, à partir de ce jour, va s'habiller en noir et sera toujours en noir. Les êtres qu'elle aimait le plus, son ami Théophile Ferré, qui était son grand amour, c'est des amis proches, des gens courageux, des gens modeste, elle a vu des enfants de 12 ans se faire assassiner. Elle a vu tellement de choses. Eh bien non, elle ne peut plus porter de couleur. Elle est habillée en noir. Après quelques années de prison, dans des prisons différentes, les voilà embarqués à Rochefort dans un bateau qui s'appelle la Virginie. Et vogue pour 4 mois pour aller en Nouvelle-Calédonie. Il y a une cage pour les prisonniers masculins, une cage pour les femmes sous le pont. Pas le droit de communiquer. C'est le bateau. Et puis, tant d'heures par jour, ils ont droit d'être sur le pont, chacun leur tour. Et puis, elle est là. Elle est en deuil. Elle est en souffrance. Et en même temps, la poète en elle, et en même temps, la vie qui est en elle, qui est impossible à atténuer, impossible à éteindre, eh bien, en même temps, elle est là et elle est capable de goûter à la beauté de ce voyage. Écoutez ce qu'elle écrit, parce que ces communards là, qui sont emprisonnés et qu'on envoie en déportation, ils s'écrivent des poèmes. Ils s'écrivent des poèmes qui se passent de cage en cage. L'aspect de ces gouffres enivre. Plus haut, ô flot, plus fort, ô vent, il devient trop étroit de vivre. Tant ici les songes sont grands. Il devient trop étroit de vivre. Enflez les voiles, ô tempête, plus haut, ô flot, plus fort, ô vent, que l'éclair brille sur nos rêves. Rêve, navire, en avant, en avant. Pourquoi les brises monotones? Ouvrez vos ailes, ô cyclone, traversons l'abîme béant. Plus haut, il devient trop étroit de vivre. Et puis ce voyage, c'est un grand temps de maturation politique pour elle. Tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a réfléchi, tout ce qu'elle a lu avant, eh bien, l'amène à un point bien précis de sa pensée politique qu'elle explique comme ça. Je vais vous lire son passage. C'est pendant le voyage de Calédonie que je devins anarchiste. Je faisais part à mon amie Nathalie Lemel, qui est une amie de toujours, de ma pensée sur l'impossibilité que n'importe quels hommes, n'importe qui, nous autres, que n'importe quels hommes au pouvoir puissent jamais faire autre chose que de commettre des crimes s'ils sont faibles ou égoïstes, ou être rendus impuissants s'ils sont dévoués. Elle était d'accord avec moi. Louise Michel est à de la haine à tout jamais pour toute forme de pouvoir. Elle est absolument certaine, et elle l'a expérimenté, que le pouvoir est un grand corrupteur. Si les gens sont faibles et égoïstes, eh bien, ils commettront ce qu'elle appelle des crimes. Et si les gens sont dévoués et compatissants, ils seront rendus impuissants, ils seront dominés. C'est Louise Michel. Alors comment est-ce qu'elle voit la vie en société, elle qui est devenue anarchiste? Je n'en sais rien. C'est pas une grande penseuse, c'est pas une théoricienne politique. C'est une figure, c'est une liteuse. Mais en tout cas, sa haine du pouvoir est bien en place. Et puis la voilà en Nouvelle-Calédonie. Au revoir, oui, je comprends bien. Et puis la voilà en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il se passe quelque chose aussi qui nous dit à quel point elle est une femme étonnante. En Nouvelle-Calédonie, il y a un peuple kanak, des peuples kanak. Et comme tous les peuples vivant sous les tropiques ou en zone équatoriale, ce sont des peuples dont le corps n'est pas couvert de tissu. Donc ils apparaissent nus. Ils ne sont pas nus. Ils ont des cordelettes, ils ont des marquages corporels qui viennent bien signifier que ce ne sont pas des êtres simplement de la nature, mais que ce sont bien des êtres humains marqués par une civilisation qui est la leur. Mais pour les soldats, les gardiens, pour les communards aussi qui viennent d'arriver dans l'île, ce sont tout simplement des sauvages, ce sont des nus. Et puis ces sauvages, ils ne sont pas armés, ils n'ont que des flèches. Ils ne travaillent pas le métal. Ils n'ont pas de forge, ils n'ont pas de monnaie. Ils n'ont pas tout ce qui fait l'Occident. Ils ont d'autres choses. Et Louise Michel a une compréhension si profonde, si fondamentale de ce que c'est qu'être humain, qu'elle est capable de complètement ne pas être dérangée par ces apparences de différence et de les rencontrer dans leur complète réalité. Elle est capable de ça, elle était peut-être la seule à en être capable. Donc elle les écoute, elle les rencontre, elle apprend leur langue, et ce n'est pas une langue facile à apprendre, c'est une langue qui n'a rien à voir avec la nôtre. Elle l'apprend, et puis elle traduit la beauté de leur texte. Les Kanaks se sont révoltés à un moment donné. Et bien sûr, la répression a été extrêmement violente. Ils ont été écrasés, ils ont été tués. Idara, c'est une prophétesse, c'est un personnage mythique. Elle ouvre sa bouche aux dents tremblantes. Quand les Blancs sont venus dans les grandes pirogues, nous les avons maudits, car elles nous attaquaient avec la foudre et nous n'avions que les flèches. Ils ont semé leurs grains sur les terres des tribus. Ils ont élevé leurs villages de pierre dans les vallées, aux endroits que nous choisissions pour les nôtres, près des cours d'eau et des cocotiers, sous les rochers qui abritaient nos pirogues. Nous avons combattu, nous vous avons maudit. Vous qui venez vous emparer de notre sol, nous vous combattrons, nous vous maudirons encore. Mais qui donc vous mène? Et quels souffles ont poussé vos pirogues? Homme blanc, que nous diras-tu pour être venu d'aussi loin? Dans ton pays, on mange tous les jours? Car un jeûne d'un matin paraît incommodé. Que nous donneras-tu de tant de richesses? Mais l'homme blanc ne raconte rien, il ne donne rien. L'homme blanc s'établit dans le pays avec ses compagnons. On les avait reçus en frères, mais ils ne le furent pas. Depuis que les hommes blancs sont venus, on ne compte plus le nombre de fois où on a récolté l'igname, on ne fait plus la fête, on ne compte plus rien. Les jours passent comme des gouttes d'eau du grand lac. Pourquoi ne mesurerait-on le temps, puisque les pirogues ailées de l'homme blanc garderont toujours le village, le rivage? Plus jamais l'homme des îles ne sera joyeux. Plus jamais il ne dansera sur les rives de la mer. Et alors elle est la seule avec un autre. Elle est la seule à s'opposer, à refuser qu'on massacre les Kanaks. Elle est la seule à comprendre leur révolte. Elle s'adresse aux communards et leur dit mais ils mènent la lutte que vous avez menée, que nous avons menée ensemble. Mais non, ses compagnons l'écartent. Et là, une nouvelle période, une période difficile en Nouvelle-Calédonie, qui est qu'elle devient très isolée. Elle est fatigante. Elle est toujours en lutte. Elle lutte de tous côtés. Elle commence à être peut-être très déprimée. Elle ne se soigne plus. Elle sent mauvais. Elle devient rebutante. Ça dure un moment comme ça. Et puis un jeune déporté, qui arrive quand même à s'approcher d'elle et à regarder un peu ce qu'elle écrit, il découvre des poèmes d'une totale beauté. Mais c'est une période difficile. Et puis au bout de 5 ans de déportation, elle a le droit, toujours déportée, d'aller à Nouméa et d'ouvrir une école. Et la voilà qui reprend sa tenue d'institutrice, qui se soigne à nouveau, qui ouvre une école à Nouméa. Une école où elle accueille les enfants de déportés, les enfants de gardiens et les enfants kanaks. Et le dimanche, elle fait l'école aux adultes kanaks qu'ils veulent bien. Et elle nous parle avec une vivacité de leur intelligence. Ils comprennent vite, ils entendent vite, ils sont curieux, ils sont... Voilà, elle est très heureuse. Très heureuse de les rencontrer et d'apprendre avec eux. En France, ses amis se battent pour qu'elle soit graciée. Elle se fâche. Je ne veux pas être graciée, je veux que nous soyons tous et tous ensemble amnistiés. Victor Hugo se bat, Clémenceau aussi, et finalement, 1880, les déportés sont amnistiés, et elle va pouvoir rentrer en France. Elle va vivre encore 25 ans. Elle a encore 25 ans de lutte, 25 ans de où elle va écrire. Je vais aller vite là, sur cette partie-là. Elle sera infatigable, inlassable. Ses rapports à Victor Hugo ont complètement changé. Alors qu'avant, il était le maître supérieur à tout. Là, elle a plus une relation d'égalité. Et quand elle lui écrit, elle lui met « Hugo, frère ». Je vous envoie un tel proscrit, je vous demande de bien vouloir vous en occuper. Elle n'est plus en adoration devant Hugo. Puis Hugo, c'est devenu un personnage très important, la Troisième République. Alors c'est possible que ça l'agace aussi, ça. Parce que la Troisième République, eh bien, c'est des grèves ouvrières, matées dans le sang. C'est des enfants qui travaillent. C'est des journées de travail de 11h, 12h, 13h. Par jour, 6 jours sur 7, c'est aucun droit. Les femmes sont toujours sous le joug du code Napoléon et n'ont absolument aucun droit. Tous les salaires des femmes dans le domaine textile sont encore plus faibles que celui des hommes. L'alcoolisme est très répandu et devient le pauvre secours des pauvres gens, pauvre secours qui en même temps maintient les gens dans leur misère. Elle est là, partout et toujours. Elle est condamnée à la prison, elle est condamnée, les mouchards la suivent, les journaux l'attaquent énormément, ils prennent certains bouts de ses phrases, ils le combinent avec d'autres et lui font dire le contraire. On la caricature, c'est une pétroleuse. Enfin, elle a une vie marquée par de nombreuses difficultés et elle ne lâche pas, elle ne lâche rien. À un moment donné, une jeune amie lui dit, écoute, faut plus rester en France. Elle la convainc d'aller vivre un temps à Londres. Donc elle va passer un certain nombre d'années à Londres, où elle va ouvrir une école pour les enfants de proscrits, et où elle va continuer à faire des choses très importantes. C'est Louise Michel. Jusqu'à la veille de sa mort, quelques jours avant, elle aura fait une conférence. Louise Michel, on en entend parler là aujourd'hui parce que j'ai eu envie de penser à elle et de transmettre quelque chose à son sujet. Mais il y a un film qui est paru il n'y a pas très longtemps que je vous invite à regarder. C'est Michel Oslo, l'auteur de Kirikou, Azur et Asmar. Il a fait un film d'animation que je trouve extraordinaire, qui a pour titre « Dilili à Paris ». Dilili, c'est un prénom d'enfant kanak. C'est une petite fille. Et cette petite fille, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, elle a eu Louise Michel comme institutrice. Alors, elle parle français très châtié, hein, la petite Dilili. Et puis, Michel Oslo, eh bien, nous raconte une histoire qui se passe dans cette fin du 19e siècle, où on a toute l'oppression à l'égard des femmes, toute l'oppression à l'égard du peuple et la pauvreté des gens, et en même temps, ma foi, de la solidarité et de la lutte qui se met en place. On y voit la jeune Marie Curie qui rencontre Dilili et Louise Michel, et puis d'autres grands personnages de l'époque. Alors je vais m'arrêter là.